Merci beaucoup, merci pour votre accueil, merci pour l'amitié, la fraternité qu'on peut vivre ici. On se sent comme à la maison, comme si on avait toujours été dans cette église. Et c'est une joie de pouvoir louer Dieu avec vous. Et merci pour ce temps de prière pour l'Ukraine. Je crois que c'est important qu'on soit solidaire de tout ce qui se passe. Dieu nous appelle à prier et à intercéder pour nos frères et sœurs. Et il se passe des choses difficiles, terribles, mais il se passe aussi des beaux miracles et des choses extraordinaires parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Moi, je suis en contact un petit peu avec Jeunesse en Mission. Justement, Jeunesse en Mission est dans tous les pays presque du monde. Et là, il y a des bases en Ukraine. Il y a même des assez nombreux missionnaires en Ukraine. Et actuellement, ce qu'ils font, c'est que dans leur centre, toute la journée, ils vont acheter de la nourriture, ils préparent des repas, ils vont nourrir les gens qui sont cachés dans le métro, dans les sous-sols. À peu près 600 personnes chaque jour qui vont nourrir. Tout ce qui leur reste de temps, d'argent, d'énergie, ils l'investissent pour aider et soutenir les gens. Et puis les autres centres de Jeunesse en Mission qui sont en Pologne ou bien en Hongrie, ils accueillent les réfugiés qui viennent et ils remplissent leur maison, leur centre de gens. Ils essayent de leur trouver de la nourriture, des habits, etc. Puis on sait aussi que de la France, de la Suisse, et d'ailleurs il y a des camions qui partent et qui envoient aussi des habits, de la nourriture et toutes sortes de choses. Donc, je crois qu'on doit continuer d'être solidaires, même si on ne sait pas, même si on comprend des choses qui sont injustes, qui sont terribles. Je crois qu'il faut qu'on montre de la compassion, de la miséricorde, la solidarité et au moins de la prière aussi, qu'on s'unisse à prier pour ces peuples. Et puis, ne pas oublier que Dieu est souverain. Des fois, on a tendance à l'oublier, puis on cherche des solutions humaines, mais voilà. Dieu est plus grand que tout ça et il va, d'une manière ou d'une autre, en tirer son épingle de ce jeu. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de juifs en Ukraine, c'est un des pays d'Europe où il y a encore le plus de juifs, et beaucoup sont en train de rentrer en Israël et ainsi d'accomplir aussi la parole de Dieu. La plus grande église juive messianique hors d'Israël est en Ukraine. Et je connais le pasteur qui s'appelle Rabbi Boris Grisenko, qui a une très belle église, tous des juifs messianiques. Et qui dansent comme les danses d'Israël, mais en Ukraine. Ils ont des célébrations majestueuses, glorieuses dans leur ville de Kiev. Et ils continuent, là, ils font des réunions de prière, vous imaginez. Alors, je ne sais pas exactement comment ils font, quand c'est qu'ils sortent, quand c'est qu'ils se cachent, quand c'est qu'ils se protègent, mais ils sont toujours dans la foi, ils s'accrochent à Dieu et ils crient à Dieu. Donc, prions pour ces frères et sœurs, ces hommes, ces femmes qui sont éprouvés par cette situation. Voilà, ce n'est pas le thème de mon message, mais le thème de mon message ce matin, ça sera la restauration de la louange. C'était un des thèmes qui était annoncé, la restauration de rebâtir le tabernacle, hein, rebâtir l'autel d'adoration. Et j'ai compris que, en fait, Dieu est un Dieu de restauration. Je le compare, excusez-moi, peut-être l'image est un peu faible, mais à un restaurateur de vieux meubles. Vous savez, les restaurateurs de vieux meubles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les vieilles fermes, dans les maisons, et puis ils frappent à la porte et disent « Vous n'avez pas une vieille armoire, là ?» Et puis l'agriculteur ou le propriétaire dit « Ouais, j'ai une vieille armoire, là, pour mes outils à la cave, mais elle ne sert à rien. Si vous la voulez, je vous la laisse. Ah oui, pour 100 euros. Ah bon, c'est bien, prenez-la. » Mais pourquoi il vient acheter cette vieille armoire? Parce que lui, il sait exactement que ce n'est pas une si vieille armoire, si détruite que ça. Il sait de quel bois elle est faite. Il sait comment elle était construite. Il sait que derrière les couches de saleté et de vernis et de couleurs, parce qu'elle a été repeinte par plusieurs générations, derrière, il y a un bois précieux. Derrière, il y a une œuvre d'art. Et il va reprendre cette armoire pour 100 euros. Pour lui, c'est rien. Il va la restaurer, la retaper, enlever les couches de peinture, enlever les saletés, réparer. Et puis, il va en faire une œuvre. Une armoire magnifique, parce que le bois est précieux, parce que les veines du bois vont ressortir. Tout ce qui avait détruit cette armoire, qui l'avait rendue peu de valeur, va être enlevé, va être restauré. Et je crois que c'est exactement ce que Dieu fait avec notre vie. Qui sait qui peut dire qu'il est venu à Christ en étant complètement parfait, restauré, et beau et propre et merveilleux? Non, on est tous venus à Christ parce qu'on était dans des situations compliquées, parce qu'on avait des souffrances, des douleurs, des blessures. Au Québec, ils disent on était dans la misère. Dans la misère. J'étais dans la misère et Dieu est venu me chercher. Mais c'est vrai, notre vie elle est souvent misérable sans Dieu. Même dans une famille chrétienne, même avec des bons parents, il y a eu des situations compliquées, des difficultés. Mais Dieu se prend un plaisir énorme à venir nous rechercher et nous restaurer. Il n'y a pas de problème pour Dieu, notre état actuel ou notre état d'avant. Mais ce qu'il veut faire, c'est qu'il a un plan extraordinaire pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous transformer, pour faire de nous quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé être. Vous savez, on est tous remplis de craintes, de doutes, de complexes, d'insécurités, de situations parce qu'on a vécu des choses difficiles déjà dans l'enfance ou à l'école. Et puis à cause de ça, on se dit, bon, je ne pourrais jamais rien faire, je ne suis pas capable de faire ça. Je parlais l'autre soir au séminaire à des gens qui disent, je ne sais pas chanter. Je dis, comment tu peux dire que tu ne sais pas chanter? Tu as une voix, non? Mais il ne faut pas te comparer à Caruso ou à je ne sais quel chanteur, Céline Dion ou Johnny, non? Tu n'es pas forcément un artiste chanteur, mais tu es capable de chanter parce que Dieu t'a donné une voix et Dieu veut entendre ta voix. Il veut restaurer ta voix, restaurer ta vie pour que ta voix sorte, pour que les autres entendent ta voix, pour que les autres soient capables d'être bénis par ta voix, par des paroles, mais aussi par des chants. Donc Dieu est un Dieu qui restaure. Parce que quand il nous a créés, il avait un plan. Il avait un plan, il avait des projets pour nous. Et puis ce monde déchu, ce monde qui est encore sous le règne de notre ennemi, nous détruit ou essaye de détruire ce plan-là. Et comment se fait-il qu'on puisse dire à des enfants rapidement, ils sont petits, tu es nul, tu es incapable, tu ne feras jamais rien de bien. Des choses tellement horribles qu'on dit sans même se rendre compte de la portée. Et ces phrases nous habitent, nous hantent, nous tourmentent. Alors que Dieu veut nous restaurer, puis Dieu dit exactement le contraire en fait. Vous lisez la Bible, vous voyez le nombre de promesses que Dieu dit sur nous. Et puis on est dans un bon paquet de prophètes et d'hommes de Dieu, hein, parce qu'ils ont tous eu les mêmes excuses que nous. Moïse, Gédéon, etc. Ils disent, ah non, je suis trop petit, je ne suis pas capable, je ne sais pas parler. Jérémie, le grand prophète, je ne peux pas parler. Ma langue est collée à mon palais. On a tous ces craintes, ces complexes. Et puis Dieu vient toujours dire, voilà, vaillant héros à Gédéon, qui se cachait parce qu'il avait la trouille. Il s'enfuyait et il battait son grain dans un endroit où on ne l'allait surtout pas le trouver. Et pourtant, Dieu vient avec l'ange de l'Éternel et dit, tu es un vaillant héros. Non, Seigneur, tu as dû te tromper. Hein? Ça vous est jamais arrivé de dire ça à Dieu? Non, Seigneur, pas moi. Moi, si je me tiens là devant vous, c'est parce qu'il y a eu tout un cheminement dans ma vie, mais longtemps, j'ai dit, non, non, Seigneur, pas moi. J'ai joué un petit peu du piano, mais j'ai dit, non, non, pas moi, Seigneur, je ne sais pas jouer. Je ne sais pas chanter. Jusqu'à ce que le Seigneur me convainque, mais il m'a fallu du temps pour l'accepter. Parce que l'orgueil, la crainte, toutes ces excuses qu'on a nous retiennent, nous empêchent de rentrer dans l'appel de Dieu. Alors petit à petit, ben, Dieu vient enlever une couche, nettoyer une couche, puis une autre couche, puis dit, mais oui, je t'appelle. Mais je vais faire comment? T'inquiète pas, je vais te dire. Je dirai quoi? Je te donnerai les paroles. Je vais où? Je te dirai où aller. Vous avez remarqué combien de fois quand Dieu appelle, il ne donne pas de détails? Il dit à Abraham, va au pays où je te montrerai. Mais Seigneur, c'est quel pays? Je te montrerai. Mais vas-y déjà. Mais je vais à gauche, à droite ou derrière? Je vais où? Vas-y. Il faut bouger, il faut répondre en fait. Sans savoir. Ésaïe fait un face-à-face avec Dieu. En Ésaïe 6, il voit le Seigneur, les anges, l'adoration, le trône, il est bouleversé. Il se dit, mais je suis un homme impur. Je ne peux pas me tenir devant le Seigneur. Qui suis-je? Puis Dieu fait tout, il envoie un ange qui le purifie, qui dit, c'est bon, je t'ai purifié, je t'ai lavé. Ça, c'est avant Jésus, hein, c'est dans l'Ancien Testament. Nous, on a Jésus. Ah oui, Jésus a purifié, Jésus a payé, Jésus a effacé, Jésus a tout fait, moi, je n'ai rien fait. Mais j'accepte ce que Jésus a fait. Des fois, on est tellement orgueilleux qu'on dit, ah non, mais moi, je vais te prouver que je vais y arriver. On ne peut pas arriver, on ne peut pas rembourser le sacrifice de Christ, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. On ne peut pas faire quoi que ce soit qui soit agréable à Dieu, si ce n'est d'accepter de s'humilier en disant merci pour Jésus qui a tout fait. J'ai rien fait, Jésus a tout fait, je te dis merci. C'est ça la louange finalement. Reconnaître qu'on est tout petit, qu'on n'est pas grand-chose, mais que Dieu est grand, que Dieu est puissant. C'est pour ça que c'est important de le chanter, c'est important de le prier, de le proclamer, de se rappeler que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que nous on est tout petits devant lui. Mais en même temps, dans sa bonté, dans sa grandeur, il fait de nous des personnes avec un cœur, avec une vision, avec une passion, et qui sont capables de le servir. Donc Ésaïe, Dieu lui pose la question. Une fois qu'il a été purifié, il lui dit, mais qui enverrai-je? Remarquez la douceur, la finesse de Dieu, il pose la question à Ésaïe. Pas comme on voit des fois dans les films chrétiens, dit, ainsi parle l'Éternel, avec une grosse voix, la réverb. « Va maintenant, lève-toi !» Non. Dieu parle doucement. Il n'était pas dans le tonnerre, il n'était pas dans les éclairs, à un moment, il a dit. Mais dans le bruit doux et léger. « Qui enverrai-je ?» Il pose la question. Dieu te pose la question. « Est-ce que tu veux me suivre ?» Dieu ne va jamais t'obliger. Et je dis la même chose pour la louange. « Est-ce que tu veux me louer ce matin ?» Je peux très bien, j'ai le micro, je suis devant, j'ai une certaine autorité. Je dis « Chantez !» Allez, chantez, mais chantez plus fort. Mais levez vos mains, levez-vous, bougez. Je passe mon temps à vous faire la gymnastique, là. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend, n'est-ce pas? Moi, je le fais. Si quelqu'un fait comme ça, c'est pour se rassurer lui-même, pour être sûr que les gens le suivent un petit peu. Mais moi, je n'ai pas envie que vous me suiviez, moi, j'ai envie que vous suiviez Dieu. Et Dieu, il vous invite et vous répondez. Quand on reçoit une invitation de quelqu'un, est-ce qu'on répond ou pas? Ah oui, on va y aller, il y aura un bon repas, on va voir des amis, ça va être sympa. J'espère qu'on accepte les invitations, mais Dieu nous fait une invitation. Est-ce que tu vas me suivre? Et Isaïe dit, mais voici, envoie-moi. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas quand il va, il ne sait pas comment ça va se passer. Comme Abraham, c'est la même chose. Mais si c'était un bon Français ou un bon Suisse, comme nous, on aurait dit, Seigneur, attends voir. Tu peux m'envoyer le contrat que je l'étudie? Combien de temps ça va durer cette affaire? Ça va coûter combien? Tu as prévu les assurances? Et tu peux me donner le plan, le chemin sur Google Maps, là, que je puisse choisir la route si elle est bonne? Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. Après, je réfléchis, je te répondrai. Mais en fait, ce que Dieu cherche, c'est quoi? L'obéissance. Ce n'est pas la discussion, ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas « je vais étudier ». C'est « tu es Seigneur, moi je suis ton serviteur ». Comme l'a dit mon frère, merci mon frère de ton témoignage. Juste dire « oui, Dieu m'appelle, je me lève pour obéir, pour construire ma maison ». Et c'est un appel très puissant de servir Dieu dans l'obéissance, dans le travail, dans des choses très pratiques. Donc Dieu attend qu'on lui réponde dans l'obéissance. Mais il veut restaurer en nous ce qu'il avait prévu qu'on soit tous. Et Dieu a prévu 3 ministères pour nous, qui est valable pour tous les chrétiens. Je vois tellement de chrétiens qui ont des complexes, qui disent « moi je ne sais pas quoi faire pour Dieu, je ne peux rien faire, je ne suis pas capable de faire quelque chose, je n'ai pas de dons, je n'ai pas de capacité ». Mais moi aussi j'avais cette excuse, je disais « Seigneur, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas jouer, je ne sais rien faire ». Puis Dieu a réussi à me convaincre, il dit « mais tu joues un petit peu quand même ». Bon, je vais essayer. Et puis j'ai joué dans mon groupe de jeunes, un ou deux chants comme ça. Puis chaque fois, je dis, c'est bien, continue. Bon, si vous insistez. Et puis petit à petit, on prend de l'assurance et puis on comprend que Dieu bénit, puis que Dieu encourage. Puis après, il y a d'autres dons qui sortent, puis d'autres capacités. Puis essaye de... Est-ce que tu pourrais nous partager un petit verset, nous donner quelque chose, une petite impulsion? Et tout à coup, on partage et puis on voit que le Saint-Esprit nous utilise et nous encourage. Puis finalement, on se met à prêcher la parole, à écrire des livres, à faire des CD. Voilà, ça c'est le résumé de mes 30 dernières années. Mais je n'y avais jamais pensé, je n'aurais jamais cru. Je ne me sentais pas capable, mais j'ai juste mis à son service les choses que j'avais. Donc, il y a 3 ministères qu'on retrouve dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on commence par des sacrificateurs. Les premiers hommes qui rencontrent Dieu, ils deviennent des sacrificateurs, c'est-à-dire qu'ils offrent des sacrifices à Dieu. Et Moïse est l'exemple parfait de cet homme qui monte sur la montagne offrir des sacrifices pour le peuple. Il amène le peuple dans le désert pour adorer Dieu. C'est un sacrificateur. Et puis ensuite, on a tout le travail du tabernacle, des lévites, qui sont des sacrificateurs que Dieu appelle à se lever. Et puis ensuite, le peuple demande d'avoir des rois. Mais avant les rois, il y a les prophètes. Il y a toute la série des prophètes dans l'Ancien Testament, Ésaïe, Jérémie, Amos, Osée et beaucoup d'autres, qui sont là au service de Dieu, ils reçoivent une parole de Dieu, ils la donnent au peuple. Et puis ensuite, des rois comme Saül, David, Salomon et d'autres. Alors là, dans l'Ancien Testament, c'est des personnages spécifiques qui viennent dans l'histoire les uns après les autres. Mais en fait, ce que Dieu a voulu résumer, et ce qu'on voit maintenant à partir du Nouveau Testament, c'est que ces 3 ministères sont résumés dans Jésus. Jésus était prophète, il était sacrificateur et il était roi. Et Jésus nous demande qu'on soit comme lui. Donc on est aussi appelés tous aujourd'hui, en tant que chrétiens, à être des sacrificateurs. C'est quoi un sacrificateur? C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu, qui offre des louanges, qui offre des prières, qui intercède, qui est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui prie pour le peuple, qui prie pour les humains, qui prie pour son pays, qui loue, qui sans cesse offre des louanges à Dieu et qui est roi dans le sens où qui règne dans sa vie. Dieu nous a donné l'autorité avec le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, pour qu'on soit des fils de roi, n'est-ce pas? Donc on a tous cette capacité de vivre avec ces trois ministères. Sans porter l'étiquette, ce n'est pas l'étiquette qui m'importe, ce n'est pas dire « moi, je suis », etc. Il y a des chrétiens qui cherchent tellement la reconnaissance qu'ils veulent absolument qu'on les appelle apôtres, prophètes, je ne sais quoi. Peu importe le nom, peu importe l'étiquette, accomplis les choses que Dieu te demande de faire. Et ainsi, tu vas accomplir des choses extraordinaires en son nom. Donc, si vous doutez de vos capacités, essayez de découvrir ce que Dieu dit de vous, dans le sens qui vous a choisi. 1 Pierre 2,9, vous connaissez ce texte. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi. C'est pour vous tous. Ce n'est pas réservé à une pastorale, ce verset-là, pour chaque chrétien. Vous êtes les prêtres, vous êtes la race choisie, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez des œuvres magnifiques. Vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes ses sacrificateurs, il n'y a pas de doute là-dessus. La seule chose qui peut nous empêcher de le faire, c'est qu'on n'y croit pas ou qu'on le refuse. Puisque quand Dieu nous invite, on peut refuser l'invitation. Mais moi, je prie que personne ne refuse cette invitation. Personne ne refuse cette invitation à le louer. Comment on peut refuser de louer un Dieu qui a donné son Fils pour nous sauver ? Alors des fois, nos émotions nous jouent des tours, des fois, nos raisonnements nous éloignent. Mais dans le fond, la louange, elle est essentielle pour l'équilibre dans notre vie chrétienne. Et dès qu'il y a une restauration, dès qu'il y a une œuvre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une louange qui naît. Dans toute l'histoire des réveils, vous pouvez regarder ce beau panneau, vous allez voir qu'à chaque moment où il y a eu un réveil spirituel, quelque chose qui s'est passé, il y a eu un réveil de la louange aussi. Parce que cette rencontre avec Dieu, cette transformation, cette œuvre du Saint-Esprit a fait naître des chants nouveaux. A fait naître une nouvelle intimité, une nouvelle relation avec Dieu, et puis ça continue. C'est pas terminé. Pardon. Donc la louange est continuellement renouvelée par le Seigneur parce qu'il la restaure, parce qu'il la change, parce qu'il connaît nos cœurs humains qui s'habituent puis qui deviennent très vite dans l'habitude, dans la passivité, et puis on laisse les choses avancer sans être passionné, sans être renouvelé par le Seigneur. Mais Dieu veut nous restaurer. Et les prophètes sont là pour annoncer cette restauration. Et ce matin, c'est dans ce sens que je vous donne cette parole aussi. Vous avez la capacité prophétique. Ce n'est pas comme les prophètes de l'Ancien Testament qui étaient limités à une personne pour un peuple. Aujourd'hui, Dieu a déversé son Saint-Esprit sur les jeunes, les vieux. Et puis, on peut prophétiser en son nom. Encore une fois, ce n'est pas l'étiquette qui m'intéresse. Mais être prophétique, c'est simplement écouter Dieu et donner une parole de Dieu. Ça peut se passer à la table du petit déjeuner, autour d'un café. J'ai l'impression que tu devrais faire ça. Il n'y a pas besoin de mettre toute la formule autour. Attention, parole de l'Éternel. Ainsi parle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis tu prends, puis tu impressionnes l'autre par tout ce qu'il y a autour. Non, Dieu te parle par ta femme, par ton mari, par tes enfants, par même ton collègue de travail qui n'est pas chrétien. Ah, ça c'est vraiment Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. Dieu nous interpelle dans ce monde dans lequel on vit. Et ensuite, on peut être des instruments aussi pour interpeller les autres. Mais ce qui est important, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'accepter ce que Dieu nous propose. À un moment donné, le roi Ézéchias, il interpelle son peuple, ses lévites, ses chantres, ses musiciens, en leur disant « Mais maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. » Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. C'est une période dans le peuple d'Israël où ils s'étaient éloignés. Vous savez, du temps des rois, ça venait, ça s'arrêtait. Pendant toute une période, ils étaient tout en feu pour Dieu. Puis pendant une période, ils étaient éloignés, endormis, ils avaient tout oublié. Et là, c'est une période où ils ont tout oublié. Même le temple était fermé. Ils avaient fermé les portes. Ils avaient entassé. Le temple était devenu un entrepôt rempli de choses. Et le roi Ézéchias dit, on va nettoyer, on va changer ça. Il prend tous les lévites, tous les chants, tous les musiciens, et il nettoie le temple. Et ça leur prend 15 jours pour vider le temple de tous ces détritus, de toutes ces choses. Et c'est à ce moment-là qu'il les interpelle en disant, cessez d'être négligent. Vous avez été appelés, pourquoi vous ne le faites pas? C'est facile de dire, oui, il faudrait que quelqu'un se lève. Pourquoi pas toi? N'est-ce pas qu'on ait des fois la réponse à nos propres prières? Mais quand on prie, on pense toujours à quelqu'un d'autre. Ah, lui, il pourrait bien faire ça. Ah, moi, je vois bien ce frère. Ce serait bien qu'il devienne dans l'église pour faire ce service-là. Ben, prie pour lui, c'est vrai, mais peut-être que toi aussi, tu es appelé à prendre cette place, à prendre ce rôle et à servir Dieu avec les dons que tu as reçus. Et surtout, ne pas rejeter l'appel que Dieu t'a donné. Ne pas rejeter les dons que Dieu t'a donnés. C'est mépriser quelque chose qui est un cadeau que Dieu nous a fait. Que ce soit dans le service, que ce soit dans la prédication, mais aussi dans toutes les choses pratiques. C'est des dons de Dieu. Quand quelqu'un est à sa place, mais qu'est-ce que ça va bien? Quand on a un bon technicien qui sait connaître la technique, quand on a une bonne cuisinière qui fait des bons repas pour accueillir les nouveaux, quand on a un bon président qui préside avec zèle, c'est tellement bon parce qu'on sent que la personne a sa place. Par contre, quand quelqu'un n'est pas à sa place, c'est compliqué. Parce qu'on sent qu'il fait un effort, et puis nous aussi, on doit tous faire un effort pour supporter qu'il n'est pas à sa place. Dieu veut restaurer, Dieu veut guérir et appeler les gens à prendre leur place, à prendre leur rôle, à se lever avec les dons, les capacités qu'ils ont reçues du Seigneur. Alors c'est pour ça que ça commence par la louange, parce que c'est notre premier rôle d'être sacrificateur devant Dieu. Et ce que j'aime dans la louange, c'est qu'on est tous les mêmes dans la louange. On est assis, on n'est pas là avec une étiquette de « Ah, moi je suis professeur, moi je suis ministre, moi je suis boulanger, moi je suis agriculteur. » Peu importe ton métier, ta profession, ton identité, ton âge, on est tous ensemble dans la louange. On fait la même chose en même temps, on est en train de se tourner vers Dieu. Et j'ai eu le privilège de louer Dieu avec des gens extraordinaires, puis avec des gens simples, avec des familles, avec des enfants. Mais j'ai la même joie de le faire. Ce qui me réjouit, c'est de voir que Dieu est capable de tirer des louanges de la bouche de tous ces humains, tous ces hommes et ces femmes qu'il adore. J'étais en Côte d'Ivoire une fois avec une équipe là, et il y avait la chorale des colonels de l'armée, vous imaginez? Juste une chorale chrétienne avec juste ceux qui avaient un certain grade. Mais voilà, c'est parce qu'ils étaient amis, ils travaillaient ensemble, et du coup, ils avaient fait une chorale de louanges. Et puis d'autres fois, je me retrouve avec des groupes de familles, de femmes seules. J'ai fait la louange dans les prisons, j'ai fait la louange dans des groupes de jeunes, dans toutes sortes de situations. Ben, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. C'est extraordinaire pour moi de voir que Dieu a touché ces gens-là, dans cet endroit-là, dans cette place-là. On dit, comment est-ce possible que ces gens-là aiment Dieu? Ben oui, c'est possible parce que Dieu aime tout le monde et Dieu rencontre chacun. Et c'est un merveilleux témoignage de voir des gens qui sont transformés, qui sont restaurés. À faire la louange avec les hommes d'affaires du plein évangile, par exemple, des chefs d'entreprise, des responsables, puis qui se mettent à genoux devant Dieu en train de pleurer et d'adorer Dieu. C'est fort, c'est puissant. Mais ça, c'est seulement quand Dieu a restauré leur cœur, restauré leur vie, que ça peut se produire. Alors, soyez des sacrificateurs pour lui. Donc, devenez des intercesseurs à prier pour l'Ukraine, à prier pour la France. On l'a fait hier soir. Priez pour votre gouvernement, priez pour votre futur président. Priez pour que Dieu prenne soin de votre pays. C'est notre rôle. Hein? Et c'est bien plus facile de critiquer, de juger, de condamner. Mais notre rôle en tant qu'Église, c'est d'être le sel, hein? De donner la saveur à ce pays. Donc, on a un rôle très important. Et puis, soyez à l'écoute du Seigneur. Sans vous prendre la tête et dire « attention, si je me trompe ou si je ne fais pas juste », mais vous pouvez dire « ok, Seigneur, conduis-moi, guide-moi, vous priez, vous êtes en communion avec Dieu » et tout à coup, Dieu vous donne une pensée, une impulsion, vous la donnez et c'est l'autre qui va confirmer. Ah, ça c'est vraiment une parole du Seigneur. Des fois, on ne se rend même pas compte. J'étais une fois dans une soirée de louange, une grande soirée de louange, on organisait tout ça, il y avait plein de gens autour de nous qui nous aidaient à régner. Il y avait un gars qui était là à côté de moi, et il m'aidait, il réglait mon piano, il était à genoux, il branchait les câbles, et puis il dit « Ah, c'est super Sylvain, ce que tu fais !» Puis moi, sans me rendre compte, je lui dis « Un jour, c'est toi qui seras là. » Ce gars, il s'appelle François Raymond, il a jeunesse en mission, il a été pendant un temps jeunesse en mission, il a composé des excellents chants de jour, mais à ce moment-là, il ne croyait pas du tout en lui, il ne pensait pas qu'il allait le faire. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça à ce moment-là, si ce n'est que Dieu m'a inspiré pour l'encourager. Et puis, je ne me suis même pas rendu compte de la portée de ma parole. Mais pour lui, il s'en est souvenu longtemps, parce qu'il pensait qu'il ne pensait pas qu'il pourrait le faire. Et peut-être cette parole donnée au bon moment à la bonne personne peut avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Donc, pour chacun de nous, on peut avoir cet impact-là auprès de nos enfants, auprès de nos parents, auprès de nos amis. Donc soyons simplement des canaux disponibles pour Dieu. Et puis il veut aussi restaurer ce côté de fils de roi, un fils de roi qui est convaincu qu'il est le fils du roi. Si on doute de ce rôle-là, ben, on va vivre comme des misérables. On va vivre dans la crainte, on va vivre dans l'angoisse. Mais si on sait qu'on est le fils du roi des rois en plus, on peut régner sur la vie, régner sur les circonstances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, bien sûr, puisque souvent les fils du roi, ils sont attaqués par d'autres qui sont jaloux, qui se moquent d'eux, qui voudraient prendre leur place, etc. Mais là, il y a assez de place dans la famille de Dieu. Il y a assez de place. Dieu a une grande famille. Dieu a un père qui accueille beaucoup d'enfants et il peut accueillir chacun de nous pour qu'on soit dans sa famille des fils du roi qui réunions ensemble. Alors, une chose que Dieu est en train de restaurer au travers de tout ça, c'est qu'il restaure finalement l'Église, l'épouse. Vous savez qu'il dit qu'il prépare une épouse qui sera belle, pure et sans tache. Alors souvent, nous, avec notre regard humain, on regarde l'Église et on se dit, ouais, quand même, pas mon Église. Il y a tellement de difficultés, de problèmes, et puis il y a ces gens-là, puis il y a celui-là qui est comme ça, puis moi, je suis comme ça. Puis on voit tous les défauts, on voit toutes les taches, on voit toutes les rides, puis on dit, c'est pas possible. Et puis Dieu dit, oui, c'est possible. Moi, je prépare mon épouse. Moi, je suis en train de la restaurer. Je suis en train de la purifier, de la rendre de plus en plus belle, de la plus en plus belle pour ce mariage, pour ce retour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette idée-là, ben, il nous dit qu'il nous invite à un repas. Vous savez que Dieu, il aime les repas. Et il y a plusieurs aventures dans la Bible qui se passent autour d'un repas. Ça commence déjà dans l'Ancien Testament, hein, quand Abraham il accueille des anges et puis ils mangent ensemble. Puis il y a plein d'histoires comme ça. Et puis ensuite, on a Jésus. Jésus, très souvent, il allait manger. Il allait manger même avec les publicains, avec les pharisiens, chez Zachée, avec ses disciples. Il y a le dernier repas. Il finit par manger au bord de la plage avec les disciples qui sont repartis à la pêche. Et chaque fois qu'il y a un repas, il y a des paroles importantes. Parce que quand on mange bien, on est bien. On est tranquille autour de la table. Puis on est disponible ensuite pour entendre une parole, n'est-ce pas ? C'est souvent à la fin du repas, quand on a bien satisfait notre chair, que là on peut dire des choses importantes. Et c'est agréable. C'est un endroit aussi peut-être pour faire la paix, pour se réconcilier. Et c'est bien. Eh bien, ce n'est pas pour rien que Dieu dit, je vous invite à un grand repas. Le repas des noces de l'agneau. C'est dans Apocalypse 19 qui nous parle de ça. Et j'aime cette nouvelle-là parce que je sais que Dieu, il envoie suffisamment d'invitations pour inviter tout le monde. Vous avez déjà été invité en mariage, je suis sûr. Hein ? Quand on reçoit l'invitation, on se réjouit. Déjà, on voit que l'enveloppe, elle est un petit peu colorée. Il y a des... Ah, c'est une enveloppe. Ah, ça doit être un mariage. Ah, qui c'est qui se marie ? Bon, souvent, on sait déjà, hein, parce qu'on voit les fiancés. Ah, ça va être le mariage de Gérard. Ah, je me réjouis. J'ouvre l'enveloppe. Et je suis invité. Et chérie, on va aller au mariage. Super, on va aller au mariage. Puis tout à coup, deux jours après, chérie, ah, il faut que je m'achète une nouvelle robe. Hein, là. Des nouvelles chaussures. Non, ça ne peut pas. Je ne peux pas aller à ce mariage comme ça. Non, tu comprends, chérie, là, il faudra quand... Ah ouais, tu as raison. Moi aussi, je vais profiter d'un nouveau complet, etc. Bon, on s'organise, on se prépare. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision, on a une perspective de quelque chose de beau. On se réjouit de ce mariage. On se réjouit parce qu'on est invité. Puis parce qu'on sait que ça va être bien, qu'on va bien manger, qu'on va se réjouir, qu'on va chanter. On va peut-être même préparer une petite chanson pour les mariés. Ah, on va se retrouver avec les cousins, les cousines. Venez, il faut répéter, il faut apprendre un chant quand même. On ne va pas y aller comme ça. On va aller leur chanter quelque chose. Bien, vous savez quoi ? Le dimanche matin, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Ben, on se prépare pour le mariage. On répète les chants qu'on va chanter là-haut. On répète les chants du mariage de l'épouse et de l'époux. Chaque fois qu'on adore ici, en fait, on adore dans la perspective qu'un jour, on va adorer tous ensemble. Et puis, ça sera un beau mariage, ça sera un grand mariage. Il y aura des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation qui sont aussi invités. Mais est-ce qu'il y aura assez à manger ? Oui. Est-ce qu'il y aura assez de place ? Oui. Il y a même une parabole dans la Bible où il dit Jésus qui a invité plein de monde et qu'il y en a plein qui ont refusé. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, allez inviter d'autres. Allez, dans les rues, invitez les autres, il y a de la place. Donc, ce n'est pas réservé pour une élite, ce n'est pas réservé pour des bons chrétiens, pour les meilleurs, pour les plus beaux, pour les plus expérimentés, ceux qui ont fait des exploits, ceux qui ont souffert, non. Bien sûr que ceux-ci seront les premiers invités, ils seront là à la table du roi. Mais nous aussi, nous sommes invités. Et nous pouvons inviter d'autres, c'est ça qui est merveilleux. Viens au mariage. Ah, mais je ne connais pas les mariés. Mais viens, tu feras connaissance. Bon, c'est peut-être bien de faire connaissance un peu avant. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on fait même partie de l'épouse. Nous sommes l'épouse. Donc, on ne peut pas manquer le mariage si on est l'épouse. Il faut qu'on soit là. C'est important. Et je vous lis ce texte d'Apocalypse 19. Une voix se fit entendre du trône. Elle disait, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le respectez, les grands comme les petits. Donc, vous êtes tous invités. J'entendis la voix semblable à celle d'une foule nombreuse. Il y a une grande foule qui sera là. Elle résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Je dis que des fois, quand on dit que la louange est trop forte, vous voyez là, ça sera encore bien plus fort. Hein. Des chutes d'eau, des violents coups de tonnerre, ça va résonner très fort. La puissance de Dieu va se manifester. Voilà ce qui était dit. Alléluia, louez le Seigneur, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant a établi son règne. C'est ça qui, c'est le moment du règne de Dieu qui démarre. Réjouissons-nous donc et soyons heureux, rendons-lui gloire. Car le moment des noces de l'agneau est arrivé, son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un tissu de fin lin, brillant et pur. Le tissu de fin lin représente les actions justes du peuple de Dieu. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on agit parce qu'on est sauvé. On sert Dieu parce qu'il nous a sauvés et on met notre force, notre cœur, notre passion à servir Dieu à cause de son salut, en réponse à son salut. Et cela va permettre à construire ce vêtement, ce beau vêtement de l'épouse. Et l'ange me dit encore, « Écris, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. » C'est ça, quand on reçoit l'invitation. « Waouh, tu es invité !» Tu as l'invitation. En ce matin, si quelqu'un doute, je dis, j'ai assez d'invitations pour vous. Ce n'est pas moi qui les ai faites, mais je suis juste quelqu'un qui les transmet de la part du Seigneur. Le Seigneur m'en a donné un carton plein et je peux les distribuer à qui je veux. Alors je vous distribue ces invitations. Elles sont là dans la Bible. Venez, venez, venez à ce repas des noces. Réjouissez-vous. Ne dites pas, ah, mais je ne suis pas capable, je n'ai pas assez prié, je ne suis pas chrétien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ben Dieu te purifie, Dieu te pardonne, Dieu t'accueille et Dieu te fait une place. C'est ça la restauration de Dieu. Il ne voit pas la vieille armoire toute fripée, toute cassée, toute salie. Il la voit déjà purifiée, nettoyée, restaurée. Dieu te restaure. Et c'est dans sa présence que tu peux être restauré. Attention, soyons vigilants. Parce que quand il dit « Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau », il ajouta « Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Je me jetai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. L'apôtre Jean qui écrit l'Apocalypse, qui est un disciple du Seigneur, qui a connu le Seigneur, qui vit dans l'île de Patmos, qui est en communion extraordinaire avec Dieu. Il a des visions, des songes, des rêves. Il écrit l'Apocalypse. Là, il y a un ange qui lui parle, qui lui raconte. Il voit le film en 3D avec la musique, l'image, le son, surround, Dolby, tout. Grand écran géant. Et puis, il voit un ange, il se dit, waouh, extraordinaire. Il se met à genoux devant l'ange, il adore l'ange. Et qu'est-ce que lui dit l'ange ? Non, ne le fais pas. Je suis qu'un être. Je suis qu'une créature. Adore Dieu. Et ça nous rappelle qu'on peut être piégé même dans l'adoration. On peut adorer l'adoration. On peut adorer la musique. On peut adorer l'église. On peut adorer les formes religieuses. On peut adorer. Je le dis parce que je l'ai entendu. Il y a des gens qui disent, moi, j'adore ta musique. Dis-moi, j'adore pas ma musique. J'adore Dieu. J'adore ta louange. Non, j'adore pas ma louange. J'adore Dieu. J'adore cette église. Elle est bien, cette église, mais je l'adore pas. J'adore pas un ministère. J'adore pas une personne. J'adore pas des êtres. Même un ange. Aujourd'hui, on est dans une période où le monde spirituel envahit tous les domaines de la société. Les gens se mettent à adorer n'importe quoi, n'importe qui. Ils mettent des petites statues d'anges même, parce que dans les supermarchés, on vend des petits anges. Protecteur, plastique, en tulle, en bois, n'importe quoi. Mais c'est beau, c'est une œuvre d'art. Mais derrière, il y a certaines... Oui, peut-être ça me ferait du bien quand même d'avoir ce petit ange. Alors, peut-être qu'on ne l'adore pas, mais en même temps, on lui donne une valeur qui n'est pas juste. Et on se met à adorer toutes sortes de choses aujourd'hui. Tout en étant chrétien, on mélange. Et ça, c'est un danger. Puisque même l'apôtre Jean, le disciple, a été piégé. Mais un vrai ange de Dieu, il va toujours t'orienter dans l'adoration du Seigneur. les anges de lumière, les anges déchus, ils vont nous éloigner de l'adoration. Ils vont nous faire aimer, adorer n'importe quoi. Pourvu qu'on n'adore pas Dieu, c'est ça. Satan déteste l'adoration. Il va chercher à l'enlever. Alors que Dieu veut nous apprendre à retrouver le cœur de l'adoration. Il veut restaurer l'adoration dans l'Église pour que l'Église l'adore vraiment, complètement, lui seul, et se mettre à genoux devant lui. Lui seul. Donc, n'adorons pas le style, n'adorons pas l'époque, n'adorons pas les artifices, n'adorons pas tout ce qui est autour, mais adorons-le, lui. Et ça, c'est toujours possible. Même si ce matin, on ne savait pas si la sonore allait fonctionner, on s'est dit, c'est pas grave si jamais on fera avec juste une guitare. On va trouver des solutions, on ne va pas se laisser perturber par les choses qui ne fonctionnent pas. Parce que la louange, elle est toujours possible. Et je pense qu'en ce moment, en Ukraine, les chrétiens, ils ne se plaignent pas de la sonore, de la couleur du tapis ou de la peinture de la salle. Ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est de rester accroché à Dieu et de lui demander sa paix et sa protection au milieu de ces épreuves. Et c'est aussi valable dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, mais il y en a beaucoup qui souffrent pour leur foi, juste pour rester fidèles, juste pour continuer d'adorer Dieu. Donc, on a besoin de prendre du recul aussi pour relativiser nos problèmes et se dire, mais en fait, c'est un faux problème. C'est juste une manière que l'ennemi a de nous détourner pour qu'on passe à côté de l'essentiel qui est de rester fidèle au Seigneur, d'être ses sacrificateurs, d'être ses prophètes et d'être ses rois. Déjà, ça, c'est tout un programme. Ne dites jamais, ne dites plus jamais, je n'ai pas de ministère. Déjà, à quoi ça sert de dire j'ai un ministère ? Je n'en ai pas. Mais juste, accomplissez ce que Dieu attend de vous. Et c'est déjà tout un programme merveilleux. Il y a un ministère encore qui est dit dans le Nouveau Testament, il dit, nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est tout un travail. Réconcilier les hommes avec Dieu. Et entre eux, bien sûr. Et ce n'est pas réservé à des spécialistes, mais tous, on peut amener les gens à se réconcilier entre eux, à se réconcilier avec Dieu et à retrouver la communion qui était là, que Dieu avait voulu. Alors moi, je prie pour vous, je prie pour que Dieu vous éclaire, vous encourage et vous aide à être ces chrétiens restaurés qui se tenaient debout comme sacrificateurs, comme prophètes, comme fils de roi et comme réconciliateurs. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce qu'il y a dans ta parole, pour les richesses de ta parole, pour les promesses extraordinaires que tu as pour nous. Merci pour la vision que tu as de nos vies, Seigneur. Merci pour les plans merveilleux. Seigneur, il y a plein de choses qu'on n'a encore pas accomplies ou à côté desquelles nous sommes passés. Mais Seigneur, je te prie que tu restaures en nous cette vision du trône, cette vision de ce repas des noces auquel nous sommes invités et que nous puissions travailler pour en ajouter le maximum, Seigneur, et inviter tous à se joindre à ce repas merveilleux. Merci parce que tu nous restaures, et je prie maintenant pour une restauration profonde des cœurs, des vies, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont dans des difficultés, qui se disent « moi, je ne peux plus rien faire pour Dieu », et que Dieu vous fortifie, vous encourage, vous relève, vous donne la force de faire face à ces défis, à ces échecs, et de le laisser vous donner la force, la capacité de vous lever avec son esprit. Merci Seigneur, tu fortifies mes frères et sœurs, tu les encourages, tu leur donnes ta force pour se tenir avec toi, fidèle dans le chemin et l'œuvre que tu leur as confiée au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.